J'avais 23 ans et jamais de ma vie j'aurais pensé que j'allais devoir faire une demande d'AI, me considérer comme invalide. Il m'a fallu un bon moment avant de me décider à la faire parce que j'estimais que j'y avais pas le droit.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les mots qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisserre et Cécile, et le quotidien 24h. S'il y a bien une douleur qui nous rassemble, c'est le mal de ventre. On a toutes et tous, un jour ou l'autre, connu des gargouillis ou autres ballonnements. Mais pour certains, c'est un état qui dure. Commence alors souvent une errance médicale plus ou moins longue pour découvrir ce qui nous tord les intestins. Hélène a 19 ans quand elle démarre cette quête.
J'avais fini mon apprentissage, j'étais en maturité professionnelle en fait. Et puis j'avais pas mal au ventre. Mon année de matu a été pas mal mouvementée par des événements assez stressants, je veux dire. Et puis la maturité était assez intense. Et puis j'ai fini ces examens, j'étais au bout du rouleau, j'étais vraiment très fatiguée. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus mal au ventre. Des crampes abdominales vraiment régulières, après manger, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même, ça dure un peu, je vais aller voir ma généraliste et puis elle m'a prescrit quelques petits médicaments pour anti-crampes, en fait, simplement. Puis ça allait, puis j'ai commencé un nouveau travail. Mais j'avais toujours ces douleurs abdominales, j'étais vraiment pas confortable. Je suis partie pour faire un petit voyage. Là, j'ai eu comme une gastro-entérite, mais une forte gastro-entérite. Je devais aller aux toilettes tout le temps. On était dans les magasins, c'était pas très super pratique. Quand je suis rentrée, j'avais toujours ces diarrhées. Je me suis dit, bon, je retourne chez la généraliste qui m'a dit, non, là, ça devient un peu long pour être une gastro. On va aller investiguer. Donc, elle m'a prévu un examen endoscopique que je suis allée faire. Je suis sortie de cet examen, on m'a dit « faites attention aux produits laitiers, etc. Ça va aller ». Les douleurs continuaient, j'étais de plus en plus fatiguée. J'ai commencé à avoir mal au niveau de l'œsophage, enfin avoir de la peine, avoir un gros poids quand j'avalais, quand je mangeais. Je commençais à perdre du poids. Et là, ma maman m'a dit, si t'arrives toujours pas à manger à la fin de la semaine, on va aller aux urgences. On passe par toutes les étapes aux urgences parce qu'ils font les simulations de diagnostic. Donc au début, ils pensaient que j'avais un anévrisme aortique. Alors ça me faisait peur. On allait faire une radio, mais c'était pas ça. On m'a envoyé faire une gastroscopie. C'était un examen assez traumatique pour moi parce que, en fait, ils vous spraient l'anesthésion dans la gorge avant d'introduire un tuyau. On m'a fait plein d'analyses de sang, etc. Puis finalement, on est venu me dire que j'avais des ulcérations dans l'œsophage et une inflammation. Donc, ils pensaient que mon système immunitaire était abaissé et du coup, qu'ils allaient me faire des tests pour le sida. J'étais terrorisée. J'avais vraiment peur. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. On a fini par me transférer dans une chambre à l'étage. On m'a réveillée à 6 heures du matin pour me dire qu'ils avaient perdu mes tubes de sang. Donc, on a dû me repiquer. Alors, autant vous dire que comme j'étais dénutrie et déshydratée, ce n'était pas très facile de me piquer. Et puis, finalement, un médecin est venu à l'étage en me disant « Ouais, non, mais ça suffit maintenant. On est samedi, mardi, vous mangez de tout. C'est comme ça. » Puis à ce moment-là, moi, je faisais un malaise avec un quart de cuillère à café. Et puis, en fait, ils croyaient que j'étais anorexique et puis que je voulais simplement pas manger, alors que c'était pas le cas. J'étais dépitée. J'avais pas de force physique parce que j'étais déjà affaiblie. ne m'écoutait pas finalement. On me faisait des choses qui faisaient peur et mal. J'étais terrorisée de ce qui m'attendait, de qu'est-ce qu'on pouvait me trouver. Finalement, j'étais tellement affaiblie qu'il a fallu me nourrir par sonde. Alors ça, c'est pas franchement rigolo non plus. Mais voilà, puis j'avais rendez-vous avec un gastro-entérologue 2 ou 3 semaines après. Et puis finalement, il a été alerté du fait que j'étais hospitalisée. Il est venu me voir. Et du coup, il m'a dit, voilà, je pense à une maladie de Crohn. Mais on doit faire un examen endoscopique pour le confirmer. Et là, j'ai eu un examen complet qui a confirmé les soupçons. Quand je me suis réveillée de cette endoscopie, il m'a dit, c'est confirmé, c'est une maladie de Crohn. J'ai dit, ouais. La réaction complètement bête. Je me suis dit, en fait, ils ont trouvé ce que j'ai. Je vais prendre un médicament et je vais aller bien.
Le docteur Michel Maillard est gastro-entérologue à la clinique Cécile. Les maladies inflammatoires intestinales et les pathologies digestives fonctionnelles font partie de ses spécialités.
La maladie de Crohn, c'est une maladie chronique du tube digestif, une maladie plutôt inflammatoire. Donc ça veut dire que c'est une maladie où on observe une réaction du système immunitaire qui est exagérée au niveau du tube digestif. Et c'est une réaction qui est exagérée notamment au microbiote, donc aux bactéries de l'intestin. Déjà, il faut savoir que ça touche le tube digestif à différents endroits, que ça peut toucher autant l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle ou le côlon. Et puis, ce que ça va impliquer, c'est des maux de ventre, des troubles du transit, perte de poids, mais aussi, par moments, puisqu'on la classifie plutôt dans les maladies auto-immunes, elle peut aussi toucher d'autres organes, comme par exemple les articulations. Le diagnostic de maladie de Crohn peut être difficile à poser. Il y a toute une errance diagnostique qui s'installe des fois pendant plusieurs années avec des patients qui ont recours à plusieurs avis avant de vraiment asseoir le diagnostic formel. Dans cette période-là, c'est vrai que les patients se sentent vite livrés à eux-mêmes et un peu abandonnés. Donc tout l'objectif, c'est aussi de sensibiliser les médecins dans leur globalité ou d'autres professionnels de la santé, d'essayer de reconnaître les premiers symptômes ou les signes qui devraient leur mettre la puce à l'oreille pour essayer de rechercher cette maladie. Les patients, leur crainte principale, c'est qu'on ne leur trouve rien, en fait. C'est souvent cette inquiétude, se dire, le médecin va faire des examens, il va faire des prises de sang, il va faire des scanners, des choses comme ça. Moi, j'ai mal. Et puis, qu'est-ce qui se passe si on ne trouve rien? Et donc, c'est là où c'est important, je pense, alors là, peut-être plutôt du côté médical, de vraiment sensibiliser les collègues et nous, dans notre prise en charge, de se dire, finalement, même s'il n'y a rien, il y a quand même une souffrance, et puis ça mérite quand même une prise en charge. Dans la maladie de Crohn, on a des critères objectifs avec des prélèvements ou une imagerie compatible qui nous permet vraiment d'asseoir le diagnostic. Mais dans des maladies plus fonctionnelles, donc plutôt liées au système nerveux intestinal ou à la sensibilité intestinale, comme l'intestin irritable, eh bien là, on ne retrouve pas d'anomalie. Et c'est là que c'est très déroutant pour le patient, parce que lui, à ce moment-là, va se dire, comme on ne trouve rien, est-ce que c'est moi qui ai inventé tout ça ? Et d'ailleurs, tout un temps, ces pathologies fonctionnelles de l'intestin, elles étaient considérées comme... Par beaucoup, comme psychosomatique. Et maintenant, on sait que ce n'est pas du tout le cas et qu'il y a réellement un fondement au niveau de l'intestin lui-même. Mais c'est vrai que d'expliquer ça aux patients, les rassurer, leur dire que c'est une maladie qui existe, c'est très important.
Après son diagnostic, Hélène passe 2 mois à l'hôpital.
Ça a été un passage vraiment difficile. J'étais contente de pouvoir rentrer. En fait, c'est une perfusion qui m'a permis de rentrer. On m'a proposé un traitement biologique. Et j'ai fait une perfusion et je me suis sentie super bien. Et j'ai pu rentrer à la maison. Sur le moment, je crois que je n'ai pas réalisé du tout ce qui m'attendait. Je ne me suis pas doutée un instant de l'impact que ça aurait sur ma vie. Je me suis vraiment dit, maintenant, on m'a trouvé, on va me soigner. Je vais aller bien. J'ai pas mesuré l'ampleur. Et c'est après, quand j'ai repris un peu d'efforts, c'est que je me suis beaucoup renseignée. J'ai cherché beaucoup de choses. parce que je voulais, entre guillemets, connaître mon ennemi. et c'est là que j'ai pris l'ampleur que je l'aurais toute ma vie. Je ne pourrais pas en guérir. On pourrait l'endormir, on pourrait l'affaiblir, mais pas, il serait toujours en moi.
Le patient doit faire le pas dans sa tête de se dire qu'il va devoir vivre avec cette maladie. Et fatalement, il y aura des hauts et des bas. Dans la maladie de Crohn ou toutes les maladies inflammatoires de l'intestin, on aura recours à des traitements qui vont calmer le système immunitaire, puisque pour l'instant, c'est quand même la stratégie principale. Et quand on arrive à bien contrôler le système immunitaire, on peut avoir vraiment une restitution complète de la fonction intestinale avec des gens qui ont des symptômes qui ne sont plus du tout invalidants. Et il y a quand même un taux de succès qui est quand même bon dans certaines situations. On arrive quand même à maîtriser ça. Hein. Ben dans ces situations-là, il y a ce côté de vivre avec une épée de Damoclès, de se dire ben, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine poussée? Est-ce que mon traitement qui marche très bien maintenant, combien de temps il va durer? On a des patients qui sont jeunes, hein, qui ont 20, 40 ans. Voilà, il y a toute la question, ben, est-ce que je vais pouvoir vivre comme ça pendant 40 ans? Qu'est-ce qui va se passer à ma retraite? C'est vrai, ils se projettent, les gens se projettent sur 10 ans, 20 ans, 40 ans en avance, puis des fois ils nous disent, mais je dois prendre ça à vie, je dois prendre ce médicament à vie. Et puis là, c'est toujours difficile de répondre, parce qu'évidemment, on ne peut pas prédire le futur. Mais ce côté-là, il est difficile. Donc il faut que le patient se mette dans un état d'esprit où il profite du jour comme il est là, et puis qu'il ne se projette justement pas trop dans le futur, mais quand il est bien, qu'il se dise ben, « je vais bien, je profite de la vie, c'est génial, et puis demain, on verra bien ce qui se passe ». Et puis ça, je pense que c'est juste pour plein d'autres choses dans la vie que juste l'intestin. Si le patient arrive à se mettre dans cet état d'esprit, c'est vrai que ça facilite beaucoup de choses, parce que c'est clair que le bien-être général aussi au niveau psychosocial va aider quand même aussi à la prise en charge.
Je suis sortie de l'hôpital fin mars à peu près, et la poussée suivante s'est un peu développée au mois de septembre-octobre. Elle m'a laissé peu de répit. Entre deux, j'avais quitté mon travail et j'en avais retrouvé un autre provisoirement. J'ai fini par être engagée, mais mon pourcentage était nettement réduit. Je ne pouvais pas travailler à 100%. Dès que je travaillais de trop, le corps ne le supportait pas et puis je faisais rapidement une poussée. Donc on a trouvé un taux qui me convenait. J'avais 23 ans et jamais de ma vie, j'aurais pensé que j'allais devoir faire une demande d'AI, me considérer comme invalide. Il m'a fallu un bon moment avant de me décider à la faire parce que j'estimais que j'y avais pas le droit. Et puis finalement, j'ai fini par le faire et c'est toujours une longue démarche. Ça a pris à peu près 3 ans. On n'a pas vécu notre vie. J'avais vraiment à peine commencé ma vie professionnelle. Et là, c'est se dire que oui, on fait cette demande AI. Peut-être qu'on pourra reprendre un jour le travail normalement, mais ce n'est pas sûr. On ne sait pas pour combien de temps on en a. Et puis, il faut accepter qu'on n'a pas la même validité que les autres. Et c'est pas un passage facile. À l'époque, c'est vrai que je me sentais un peu seule face à ces démarches-là, même si le médecin était là pour remplir les papiers. Mais on n'a pas vraiment d'accompagnement sur tout ce qui est assurance, des choses comme ça. Les batailles avec l'assurance pour les médicaments, ce genre de choses. Je crois que c'est tout récemment que j'ai réalisé que, ben, à cause de ça, à cause de mon corps, de ces douleurs et de tout ça, même si je travaille encore un petit pourcentage, mon avenir et ma retraite et tout ça seraient de toute façon compromis. Tout le monde se dit « Ah, mais t'es à l'AI, c'est bon », etc. Mais en fait, non, l'AI, il est en fonction du dernier salaire qu'on avait. Et comme moi, je commençais à peine ma vie professionnelle, autant vous dire que le salaire n'était pas bien haut. Donc la rente, elle n'est pas énorme.
La charge administrative, c'est vrai qu'elle peut être assez importante. Ces patients avec maladie chronique vont avoir recours à plusieurs médecins, donc il y aura des notes d'honoraires à régler, avec des tractations avec l'assurance maladie pour se faire rembourser, des traitements immunosuppresseurs, il y a toujours des va-et-vient avec les assurances pour les faire rembourser. Le patient, il est un peu pris en sandwich là-dedans. Alors déjà que c'est angoissant d'avoir une maladie auto-immune, mais en plus de devoir gérer tout ce qui est les charges administratives, c'est pas toujours simple. Il y a le côté aussi de l'absentéisme au travail, avec la pression de devoir quand même être présent pour sécuriser une place d'emploi. Ou alors, si ce n'est pas le cas, les démarches à faire auprès de l'assurance invalidité, avec des dossiers qui sont aussi complexes à gérer, pour convaincre des fois les assureurs que la douleur, elle est à un stade où elle devient tellement invalidante que le travail n'est pas possible. Comme c'est quelque chose de non palpable, là aussi, il y a toute une marge d'interprétation de l'autre côté quand il s'agit de donner une prime d'assurance. Donc, on voit vite, finalement, des patients qui se sentent aussi fragilisés par ça.
Au quotidien, ça implique plein de différentes choses. Ça dépend dans quelle phase on est de la maladie. Et les phases de repos où c'est plus calme, où là, on peut vivre une vie, je dirais pas normale, mais moins compliquée, où on est moins à se poser la question de où sont les prochaines toilettes, je vais sortir, attention, faut pas que je mange ça avant de partir parce que je risque d'avoir besoin d'aller aux toilettes, aller chez quelqu'un. Non, merci, je bois pas de café parce que j'ai pas envie d'aller devoir courir aux toilettes chez cette personne-là. C'est aussi faire attention à l'alimentation, de faire attention à plein de petites choses, finalement.
Tout le monde a eu à un moment donné des maux de ventre sur quelque chose qu'ils avaient mal digéré ou une infection. Il faut s'imaginer que les gens qui ont ces maladies, ils se sentent comme ça tous les jours, pendant tout le temps, tous les matins et toute leur vie. Si on n'arrive pas à trouver un traitement qui les soigne comme il faut, au bout d'un moment, quand vraiment ça devient chronique, ils prennent sur eux, et puis il y a des choses toutes bêtes, mais l'accès au WC, c'est des gens qui, s'ils ont des diarrhées chroniques, la première chose qu'ils vont faire en arrivant quelque part, c'est de localiser les WC les plus près. C'est des choses que, quand on n'a pas de maux de ventre ou de maladies digestives chroniques, on ne s'imagine pas. Mais cette inquiétude, se dire, mais si j'ai besoin d'aller au WC, est-ce que j'y ai accès ? Est-ce qu'il y aura la queue ? Parce que des fois, les gens ne peuvent pas tenir, ils ont peur d'avoir des accidents. Et ça donne un stress énorme qui fait que les gens peuvent se retrouver à finalement ne plus oser sortir, donc rester prostrés chez eux. Donc ça limite les interactions avec autrui. Ou alors sortir, mais uniquement dans des environnements extrêmement bien connus. Donc, le côté spontané, disons, va commencer à disparaître.
Gérer les rendez-vous médicaux, les prises de sang, aller chercher les médicaments à la pharmacie, les commander, s'assurer que l'assurance a bien fait la prolongation pour la prise en charge du traitement, parce que certains traitements sont expérimentaux ou pas encore sur le marché pour les maladies inflammatoires. Et ils sont très souvent, d'abord sur le marché de la rhumatologie pour les problèmes rhumatismaux. Et après, ils viennent sur le marché pour la gastro-entérologie. Donc aussi, moi, je suis passée par pas mal de phases de tests, de cobayes, entre guillemets, parce que je n'avais plus de solution de traitement, puis que le seul moyen, c'était de tester des produits. Donc c'est aussi, là c'est des questionnaires pour voir l'évolution, si on a des améliorations. C'est beaucoup de boulot finalement.
Dans la maladie de Crohn, disons qu'on a quand même de plus en plus de moyens de traitement qui sont quand même passablement ciblés sur les cascades d'inflammation au niveau de l'intestin, puisqu'on est dans le registre plutôt de l'immunologie du tube digestif. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on a commencé à cibler un peu plus nos traitements sur les molécules qui sont à l'origine de l'inflammation. Donc maintenant, on a quand même des traitements qui sont plus spécifiques. Donc de ce point de vue-là, on est plutôt en avance. Mais cela dit, et pour l'instant, on ne sait pas pourquoi, il y a tout un nombre de patients qui, malgré toutes nos connaissances qui semblent être bonnes, passent entre les mailles et puis ne répondent à aucun traitement. Et donc, on se trouve avec des gens qui ont essayé toutes les molécules possibles et imaginables sans forcément que ça marche. C'est pas comme quand vous allez essayer des habits ou vous essayez différentes tailles puis vous prenez la chemise qui est à votre taille. Là, en fait, on doit essayer et puis on se donne 2-3 mois. Et puis, si ça va pas, on change. Et c'est un peu la même chose dans d'autres maladies digestives. On a un peu cette approche-là aussi. La maladie de Crohn et l'intestin irritable, c'est deux grosses thématiques lorsqu'on parle de maux de ventre et de douleurs abdominales chroniques. Mais c'est quand même deux maladies très différentes. Ce qui est intéressant, c'est que dans la perspective du patient, probablement que le vécu est relativement identique à un certain degré. L'intensité des douleurs, les symptômes avec potentiellement les troubles du transit, tout ça, ça se retrouve en fait entre les deux maladies. Et d'ailleurs, pour nous, dans le monde médical, on a toute une série d'algorithmes pour essayer de bien dissocier les deux, parce que la prise en charge après sera très différente. Quand on a un registre plutôt inflammatoire, on a quelque chose d'assez cartésien où le médecin va assez facilement tomber sur quelque chose d'assez scientifique. Il y aura des biopsies, il y aura des molécules d'inflammation qui seront retrouvées ou des images anormales. Donc on est quand même dans quelque chose que nous, médecins, on aime bien parce qu'on est en confiance. Et là, du coup, je pense que le partenariat s'établit peut-être un peu plus facilement avec le patient. Et puis, dans l'intestin irritable, alors que le patient, lui, il est toujours avec les mêmes symptômes, le médecin va être un peu dérouté parce qu'il va chercher. Et puis, comme c'est un diagnostic d'exclusion, au bout d'un moment, il va devoir se dire « Maintenant, j'arrête de chercher. C'est un intestin irritable et je dois passer à l'étape d'après de soigner parce que c'est quand même un peu le but. » Et cette étape-là, elle n'est pas toujours facile tant pour le médecin que le patient. Le patient se dit, est-ce que ce médecin est suffisamment compétent? Est-ce qu'il a vraiment bien tout cherché? J'ai peut-être un truc bizarre, rare, qu'on a raté. Est-ce qu'il faut que j'aille demander un deuxième avis? Est-ce que je devrais aller voir peut-être un spécialiste dans un hôpital universitaire? Ou alors, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce jugement-là et effectivement commencer à démarrer un traitement? On va initier un traitement sans forcément savoir si ça va être efficace. Donc là aussi, si le traitement n'est pas efficace, le doute va s'installer un peu plus. C'est pour ça que je trouve très important l'éducation du patient. Le patient doit comprendre ce qui lui arrive, comprendre comment le tube digestif fonctionne, accepter ce doute qui va s'installer en disant, on part sur une hypothèse de travail, on démarre un traitement et puis, comme c'est une maladie chronique, le temps nous dira comment ça va se développer.
Dans l'éducation du patient, apprendre à se nourrir sans se rendre malade est aussi un point clé.
Je dois équilibrer que si j'ai mangé tel aliment ce jour-là, il faut que je privilégie tel autre aliment juste après pour éviter d'être trop malade. Donc j'anticipe pas mal. Et puis faire attention, se réfréner sur certaines choses qu'on aime, qu'on a envie, mais qui vaut mieux qu'on évite. Une salade, tout simplement. Les crudités, c'est vraiment difficile à digérer. Tout ce qui est épicé, par exemple, ou tout ce qui est, par exemple, la raclette, la fondue, les classiques qu'on peut faire chez des amis, etc. Moi, je suis malade direct, dans la demi-heure qui suit, même pas. Donc, c'est un café, un simple café, des choses comme ça.
Il y a des aliments qui sont plus difficiles à digérer que d'autres, mais on les connaît tous. Ce sera les choses qui ont tendance à faire des ballonnements, comme les oignons, l'ail, les pois chiches, toutes ces choses qui font des maux de ventre. Donc là, c'est clair que ce genre de choses, même quelqu'un, entre guillemets, normalement constitué, pourrait avoir des symptômes. Tout ce qui est des sucres synthétiques a tendance aussi à être difficile à digérer parce que c'est vrai que pour lutter contre la prise de poids des gens, l'industrie alimentaire a quand même rajouté passablement de sucres artificiels dans ce qu'on consomme. Et ces sucres ne sont pas absorbés, ce qui fait qu'effectivement, on ne prend pas de poids vu qu'ils restent dans l'intestin. Mais par contre, au niveau de l'intestin, c'est un petit peu plus difficile à gérer. J'ai souvent des patients qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train de consommer une grande quantité, par exemple, de fructose ou d'autres sucres qui sont difficilement absorbés. Et puis là, ça va faire des maux de ventre. Ouais.
Après 17 ans avec cette maladie, Hélène vit une période un peu plus apaisée.
Pour l'instant, je dirais que j'ai de la chance. C'est qu'on a trouvé un traitement qui me stabilise pas mal. Je ne peux pas vivre ma vie normalement non plus, mais ça me stabilise. Je n'ai pas besoin de me lever la nuit pour aller aux toilettes. Je n'ai pas des crampes toutes les heures. Enfin, je peux faire des choses. Je reste très fatiguée parce que je n'ai pas qu'une maladie chronique, mais plusieurs. Parce qu'il faut savoir que même si la maladie, elle est digestive, donc de la bouche à l'anus, ça impacte d'autres parties du corps. Ça peut être la peau, ça peut être les articulations. Certains traitements peuvent faire certains effets secondaires qu'on doit traiter aussi après. Moi, ça m'a fait une maladie de la peau qui, même à l'arrêt du traitement, est restée. Donc voilà, c'est tout un ensemble. C'est une maladie inflammatoire des intestins. C'est pas que un symptôme. Et qu'un traitement non plus. Il y a tout un ensemble. J'envisage mon futur avec beaucoup de doutes et d'incertitudes. À l'heure actuelle, mes 17 dernières années de maladie ont été loin d'être un fleuve tranquille, je vais dire. C'était vraiment compliqué. J'ai dû faire face à plein d'épreuves. Et là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression de résoudre un problème et qu'il y en ait un autre qui suit derrière. Donc honnêtement, je ne suis pas très confiante pour mon avenir. Je pense que ça va malheureusement un peu continuer comme ça. Et puis, mais je suis très contente d'avoir pu trouver un médecin, un gastro-entérologue, qui me suit et qui est à l'écoute et avec qui on peut travailler en binôme, que c'est pas juste bonjour madame, au revoir madame, que voilà, qui sait m'écouter et qui sait avoir confiance aussi en ce que je dis, ce que je sens, quels sont mes besoins, que voilà, certains traitements non, je ne peux pas les prendre parce que ça me fait trop d'effets secondaires qui fait que je pourrais pas vivre la vie que je vis. Je dois gérer beaucoup de choses. Parce que j'ai ma fille qui a aussi des soucis de santé. Donc je dois être sur tous les fronts. Je dois pouvoir continuer à fonctionner. Même si je dois faire des pauses, que je suis très fatiguée, etc. Je dois continuer à pouvoir fonctionner. Moi, je dis toujours, veillez à bien avoir un médecin avec qui vous ayez une bonne équipe. Parce que c'est un long chemin. Et si on n'est pas écouté, si on n'est pas entendu, si on n'a rien qui suit, on peut pas perdre le moral, ça rend les choses encore plus compliquées. Et c'est déjà assez dur comme ça.
Tout à fait, le côté équipe, en tout cas, moi j'ai découvert ça un peu tristement quand j'avais travaillé en oncologie, où les patients, maintenant à l'ère d'Internet, les patients qui avaient des cancers se connectaient à certains sites Internet où les congrès scientifiques avaient lieu, et le lendemain, ils débarquaient avec des nouvelles molécules qui avaient été citées la veille dans un congrès scientifique en disant « j'aimerais ce médicament ». Certains collègues s'étaient presque fâchés en disant « mais ils veulent faire notre travail, nous on a quand même fait des études, qu'est-ce qui se passe, ils n'ont qu'à juste faire ce qu'on veut ». Enfin, je caricature, hein. Mais en fait, moi au contraire, j'ai toujours trouvé intéressant parce que finalement, le patient arrive avec des idées et puis elles ne sont pas toujours mauvaises, hein. Des fois elles sont bonnes. C'est clair que le patient, il a, pour lui, c'est tellement important d'identifier un traitement. Et donc en fait, cet échange, s'il arrive à se faire vraiment de manière saine et puis qu'il y a une confiance qui est bilatérale, c'est l'idéal dans une relation de maladie chronique. Le pire, c'est quand cette confiance se rompt, que le patient va voir ailleurs, il recommence toute une histoire avec un autre médecin, on perd des années avec une maladie qui va finalement pas être bien prise en charge. Donc en fait, un petit peu comme dans une relation de couple, il y aura des moments, il y aura des hauts et des bas, donc on va de temps en temps pas être d'accord, de temps en temps on va peut-être être fâché l'un contre l'autre, de temps en temps on va être très en phase, et puis on traverse les années comme ça ensemble. En anglais on dit « patient empowerment », donc vraiment donner le pouvoir aux patients. C'est extrêmement important en développement et à mon avis, c'est quelque chose qui va être de plus en plus mis en avant, notamment avec le rôle du personnel infirmier qui est, à mon avis, plus adéquat que le milieu médical pour ça. Et donc, dans les maladies chroniques comme la maladie de Crohn ou les maladies inflammatoires de l'intestin, en fait, le rôle des soignants devient maintenant de plus en plus identifiable et de plus en plus mis en valeur pour cet accompagnement et d'éducation du patient.
Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur la maladie de Crohn et les pathologies digestives fonctionnelles en lien dans le descriptif de l'épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des étoiles et d'ajouter un commentaire pour donner de la visibilité à ce nouveau podcast. On se retrouve dans un mois.